Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre pour cette session et bienvenue. Alors, sur ce petit temps de l'après-midi, on va se poser une question, c'est pourquoi la nature peut être un véritable atout pour les collectivités ? Alors, parce que c'est des choses dont on entend de plus en plus parler, ces phénomènes d'inondations, de sécheresses récurrentes, d'effets d'îlots de chaleur urbains, voilà, avec les changements climatiques, mais c'est aussi parfois des problématiques de conflits d'usage entre les différents acteurs, et puis tout simplement aussi les attentes variées de la population. Et donc pour tous ces sujets, les collectivités sont en première ligne. Et alors s'il y a une chose qui devient de plus en plus claire désormais, c'est que la nature, qui avait tendance ces dernières décennies, disons, à être un peu oubliée, mise de côté, et bien aujourd'hui, on la reconnaît de plus en plus comme une alliée essentielle dans la réponse à apporter aux différents enjeux sociétaux de notre époque. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, sur 30 minutes, on a 15 minutes de moins que d'habitude, enfin que prévu, donc on va essayer d'aller assez vite, avec différentes interventions. C'est avec nous aujourd'hui pour discuter de tout ça, on va avoir Célia Delavergne, qui est directrice de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique. Bruno Mertens, directeur du service support gynécologique à Osmaya. Hervé Cardinal, directeur technique au SIAVB, donc syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre. Et Gaëlle Berthaud, directrice du parc national des Calanques. Ah oui, hop, effectivement, pour avoir les prénoms qui s'affichent. Donc pour ouvrir cette session et nous expliquer rapidement pourquoi la nature désormais est reconnue comme un pilier incontournable des politiques publiques, j'ai le plaisir de donner la parole à Madame Delavergne.
Merci, bonjour à tous, merci d'être là. C'est peut-être en guise d'introduction quelques éléments assez généraux. Naturellement, en tant que directrice de l'eau et de la biodiversité, je vais vous rappeler l'importance de faire un enjeu commun de la protection du vivant compte tenu des indicateurs qui sont les nôtres aujourd'hui sur la baisse du nombre d'espèces et la disparition, en tout cas l'érosion lente du vivant sur lequel finalement toutes les échelles territoriales doivent être mobilisées et en particulier celle de proximité, c'est-à-dire l'échelon communal, l'intercommunalité, en lien avec le rôle de chef de fila des régions. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait la nature, c'est au cœur finalement du mandat des élus. Et c'est parfois, c'est ce point-là qu'il faut qu'on donne à voir aujourd'hui de plus en plus aux élus des communes, des intercommunalités. Alors pourquoi ? D'abord, on parle souvent, et j'ai commencé par là, d'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire en fait la perte, y compris de la capacité de notre environnement à nous fournir les services dont nous avons besoin pour se nourrir, pour traiter l'eau, pour la qualité de l'air, pour fournir tous les matériaux dont nous avons besoin en énergie, en bois, etc. Et donc c'est d'abord finalement permettre à la nature de continuer à nous permettre de vivre. Mais au-delà de ça, c'est au quotidien, la nature près de chez soi, c'est un élément de cadre de vie du quotidien pour les citoyens. Et ça, dans le dialogue avec les élus, c'est essentiel. Et les élus, il me semble, de plus en plus, identifient à quel point parler de nature près de chez soi est un enjeu à la fois dans leur relation aux citoyens, mais aussi pour des enjeux de santé publique. Puisque, je ne sais pas si vous le savez, ce chiffre est assez éloquent et il ressort d'ailleurs pendant le Salon des maires, mais on a 25% de dépression en plus chez les personnes qui vivent éloignées de l'accès à la nature près de chez eux. Donc plus on est près de la nature, plus l'effet apaisant de la nature a aujourd'hui un effet sur nous. Une étude de l'OMS et de l'ADEME montre que la présence d'espaces verts en ville peut permettre d'économiser 20% des dépenses de santé publique. Voilà, donc c'est d'abord un enjeu de santé. Et la santé, c'est la première préoccupation des Français. C'est aussi un enjeu, finalement, de sécurité. On voit bien, à l'heure où on a une intensification des inondations, des sécheresses, que les solutions fondées sur la nature, qu'il s'agisse de la plantation de haies ou de noues en ville ou des prairies permanentes, des zones d'expansion des crues via des milieux humides. Tous ces sujets-là, aujourd'hui, ils permettent, à l'heure où s'intensifie le cycle de l'eau et les épisodes intenses s'accélèrent, d'apporter des solutions concrètes dont, objectivement, et on est en train de le démontrer, qui sont parfois moins chères que les solutions bétonnées classiques. Et donc, c'est un outil au service, un outil technique pour résoudre des problèmes de quotidien des élus. Ça, c'est un deuxième point qui me semble important à partager avec vous. Et enfin, la solution fondée sur la nature, c'est aussi une économie de demain avec un développement d'une filière économique autour du génie écologique, de l'ingénierie écologique, pour apporter ces solutions concrètes, pour répondre à des marchés publics. Et là, on travaille au niveau du ministère à des filières de structuration et d'accompagnement des entreprises pour qu'elles soient de plus en plus nombreuses et de plus en plus au service des élus. Je vais aller très court puisqu'on a peu de temps, mais voilà ce que je voulais dire pour vous mettre un peu sur les rails de cette très belle séquence que nous abordons.
Merci beaucoup, Célia. Après cette courte introduction, mais pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, on va maintenant illustrer concrètement ce que ça peut vouloir dire de faire intervenir la nature dans les collectivités en tant qu'atout concret à travers trois retours d'expérience qui sont assez diversifiés. On va d'abord parler de génie écologique de manière générale, puis de solutions fondées sur la nature pour ensuite arriver à de la restauration passive. Donc pour commencer, on va voir comment le génie écologique peut contribuer à transformer un territoire avec une pépinière végétale locale. Donc ça va être Bruno Mertens qui va nous présenter ça, qui est donc directeur du service support génie écologique à Osmaya. C'est un groupe spécialisé dans l'aménagement paysager et le génie écologique. Donc monsieur Mertens, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi développer une pépinière locale et ensuite comment accompagner les maîtres d'ouvrage dans l'intégration du génie écologique dans leur projet et concrètement qu'est-ce que ça apporte pour les habitants?
Alors on a créé une pépinière en végétal local sur le secteur de Disney. On voit le grand rond là qui est là. Et Disney est basé sur l'esthétique. Donc ils ont vraiment un but esthétique. Et là l'objectif c'était d'appréhender le territoire d'une manière différente et de créer une pépinière juste à côté pour développer le territoire tout autour et de recréer en fait des trames vertes. Là on a le seul boisement du coin. Et de recréer des trames vertes dans le territoire pour retrouver de la biodiversité. Et donc l'enjeu, en fait, c'était de faire une pépinière pour accompagner le développement de la ZAC de Chanteloup-en-Brie en ayant une dimension pédagogique. Donc en fait, on est parti d'un terrain qui était inondé en permanence, qui en fait dégorgeait sur le rond-point d'accès à la ZAC. Donc un terrain agricole qui était complètement matraqué au niveau du sol. Et donc l'objectif, c'était de faire pousser des plantes sur ce terrain-là. Donc il y a eu un appel d'offres, on l'a gagné. Et donc on a créé une pépinière déjà, la manière la plus rationnelle, mais en intégrant beaucoup de biodiversité, en enlevant tout le plastique qui était possible d'enlever. Et en irriguant avec zéro, sans irriguer la pépinière. Et donc ça a donné ces travaux-là. Donc on a drainé en fait la pépinière avec des noues sur ces longueurs-là. On a fait un réseau de mares qui permet aussi d'avoir une trame verte, une trame bleue en amenant de la biodiversité. Et en fait on a aussi ramené une trame verte en fond pour utiliser ces végétaux locaux. Les végétaux locaux, en fait, l'avantage, c'est de ramener... c'est des végétaux qui ont poussé là, qui sont adaptés à la biodiversité, qui ont évolué avec la biodiversité du coin, et donc qui ont une certaine résilience. Ils ont une génétique différente, et ça permet aussi, quand il y a des chocs climatiques, qu'il y ait des individus différents, qu'il y ait forcément un individu parmi les autres qui puisse survivre. Et donc on a fait cette pépinière-là. Et le but, c'est en fait de reprendre un ancrage dans le territoire et de partir de la graine jusqu'à la plantation sur la commune de Chanteloup. Et donc là, on a en fait toute une gamme de végétaux qui a été définie en fonction de ce qu'on allait développer. Et donc ça demande un autre exercice, c'est de programmer en fait comment on va... développer son territoire, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va faire des routes, des actes, des logements. Et donc à partir de là, en fait, sur 12 ans, on a une pépinière qui va produire des arbres pour le futur. Et donc voilà la pépinière qui a été qui est au bout d'un an et demi. Donc on a une trame verte qui permet vraiment d'avoir un aspect pédagogique. Il y a des mares, le réseau de mares, des tas de bois, des semis locaux de prairies, tout un aspect pédagogique. Ça, c'est important, parce que faire de l'écologie, c'est important d'emmener tout le territoire avec, c'est avec les enfants. Donc là, il y a eu quasiment 1000 élèves qui sont passés sur la pépinière pour planter, semer, voilà, vraiment faire adhérer tout le territoire, les parents. Et ça, c'est la partie collecte en parallèle. Donc c'est de la collecte en fait de végétaux. Ça, on part vraiment de la graine jusqu'à enlever la pulpe, semer dans la pépinière. Et donc voilà, ça permet vraiment de reconnaître son territoire, parce qu'on arrive à voir aussi les semences, enfin les arbres semenciers. Et voilà, ce qui est vraiment sympathique, c'est d'arrêter la mondialisation. Les arbres en fait sont un peu issus de la mondialisation aujourd'hui. Les graines viennent d'Australie. Les jeunes plants viennent en France, ils repartent en Italie et ils repartent après en Hollande, ils vont en Allemagne, ils reviennent en France. Donc l'idée, c'était vraiment de casser cette dynamique et de revenir en fait à une pépinière où on a tout de A à Z sur le territoire. Voilà.
Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Mertens. Et donc maintenant, on va passer à un... Voilà. On passe à une démarche plus axée solutions fondées sur la nature, cette fois-ci avec la renaturation de la Bièvre, donc qui est d'ailleurs lauréat 2025 du plan eau pour la catégorie sécurité de l'approvisionnement en eau. Donc c'est un prix SFN qui a été décerné. Donc cette fois, c'est Hervé Cardinal qui va nous expliquer cela, donc directeur technique du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre. Donc monsieur Cardinal, est-ce que vous pouvez revenir sur les enjeux qui ont mené à cette restauration de la rivière et nous montrer aussi concrètement ce que cette transformation a changé pour les habitants?
Oui, tout à fait. Et bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors la vallée de la Bièvre, hein, c'est un petit bassin versant de 150 km² à 15 km de Paris. Alors 15 minutes quand ça va bien, mais 2h30 quand ça va moins bien. Mais on est juste, on est très urbain, très contrasté avec des champs et des zones très urbaines, avec des villes de 50 000 habitants comme Massy ou une ville comme Toussus-le-Noble dans les Yvelines avec 1900 habitants. Donc on a vraiment des dichotomies assez importantes et on a réussi depuis des années, et là vous avez des ronds rouges et des ronds verts. Les ronds rouges, c'est tous les travaux passés sur lesquels on est venu travailler sur l'ensemble de la vallée de la Bièvre et pour lesquels on a réussi à donner du paysage, des usages et des protections contre les inondations pour nos riverains. Alors, une de nos solutions sur lesquelles on a pas mal de retours maintenant, c'était vider les plans d'eau permanents. Ces plans d'eau permanents, c'est des plans d'eau décoratifs qui sont là depuis les années 80, qui servaient sur une partie à écréter les crues. Sauf que ils font des ruptures aux continuités piscicoles et sédimentaires et ils se trophisent l'été, c'est rempli de cyanobactéries, d'algues, c'est tout vert, c'est inutilisable, il y a des mortalités piscicoles et aviaires, on ne peut plus trop rien en faire. Alors l'idée, c'est juste de les vider, on augmente le volume de capacité du bassin et on restaure de la zone humide. Alors au départ, c'est pas terrible, c'est tout vaseux, c'est pas très propre, mais au bout de 3 mois, ça donne ça au milieu du plan d'eau. Donc on voit bien que là, on a une zone humide complètement restaurée. Et on n'a absolument rien fait sauf supprimer un mur en béton. Voilà, je supprime un mur en béton, ça vide un plan d'eau, la zone humide se restaure, c'est gagné, au revoir. Un autre, il est le long de la 118, quand on monte à Verrières. Ça a l'air simple, c'est très simple. Non, c'est pas compliqué les renaturations et les restaurations écologiques. Là, vous aviez un beau bassin aussi de régulation qui est proche de la RN 118 quand vous montez sur Vélizy 2 avant de descendre sur Clamart, pour ceux qui sont du coin. On le supprime, donc vous voyez l'état écologique dans lequel il était, c'était une catastrophe. On supprime cet horrible petit mur qui coupait la continuité piscicole et sédimentaire, et la rivière vient refaire ses méandres tout seul, et on a une zone humide avérée qui s'est installée. Alors ça, c'était les solutions faciles, où on a un plan d'eau et on vient travailler. Quand ça se passe bien, c'est en bas, quand ça se passe pas bien, c'est en haut. Mais ça se passe quand même bien, parce que tant qu'on ne dépasse pas le petit mur de régulation, c'est qu'on a réussi à contenir les crues, et les crues d'octobre de 2016, de 2020, de 2024, pas de débordement des cours d'eau dans la vallée de la Bièvre, parce que grâce à ces solutions, en cumulé, on avait récupéré plusieurs centaines de milliers de mètres cubes grâce au vidange des plans d'eau permanents dans la vallée de la Bièvre. Et puis il y a les autres actions qui sont un peu plus massives, qui se voient un peu plus, et sur lesquelles il faut vraiment communiquer avec les riverains pour qu'ils comprennent, parce qu'on va changer vraiment leurs habitudes et leur petit quotidien. Et ces rivières complètement linéaires qui ont été faites dans les années 70, aussi 80, pour accélérer le flux, l'accélérer où? Chez le riverain du bas. Et le riverain du bas, à un moment, il en a marre, il a accéléré aussi, mais à force d'accélérer, ça inondait dans les infrastructures. L'idée aussi, c'était qu'il y a eu des remblais, parce que quand on faisait une route, une autoroute, des terrassements, de l'habitation, où est-ce qu'il était simple d'aller mettre les remblais ? Ben, à côté de la rivière, parce que c'était une espèce de marécage pas terrible. On mettait la rivière toute droite, on faisait un remblai de 2-3 mètres de haut, et tout allait bien. Bon, ben, tout allait bien, sauf que ça accélère la rivière, on n'a plus d'écologie, on a des berges carrées. Donc nous, on vient faire l'inverse, on renlève ces zones-là, on redonne de la place à la rivière. Et ça, c'était 2 mois après les travaux. Et 1 an après les travaux, en vue au sol, ça donne cette photo-là. Donc, qui préférait avant ? C'est juste pour voir dans l'Assemblée, dans personne. Merci. Et après, ben, une fois qu'on a commencé et qu'on a des élus courageux, parce qu'au départ, il faut que les élus soient courageux pour être un peu à l'encontre des habitants qui disent « Oh, mais on va quand même pas dépenser de l'argent pour ça ». Et si, pour ça, c'est pour l'écologie, pour le climat, pour votre paysage, pour votre habitat. Donc, avant, à gauche, 3 mois après, à droite. Et une fois qu'on a déroulé, un ouvrage technique avant qui contrariait la rivière. Et à gauche, on a maintenant la rivière aujourd'hui, un lever de matin, un 27 décembre, quand j'allais au travail. On est à 15 km de Paris. Et puis, bah, pareil, là, vous ne pouviez pas trop vous promener. Et puis, on avait un ouvrage technique pour décanter la rivière. Alors, à quoi ça sert ? Enlever les sédiments du cours d'eau. Plutôt que de les laisser se transférer comme ils veulent, on les enlevait. Voilà. Bon, ça évitait que ça colmate plus loin. On faisait des curages de rivière, c'était sympa. Bon, et puis à côté, tout à gauche, là, c'était du remblai de décharge. Bon, ben, alors nous, on a commencé à tout virer. Le canal béton, on commence à le voir un peu disparaître. On voit les renaturations arriver. Et ça, c'était 3 mois plus tard. Pas plus que 3 mois plus tard. Donc il y a quand même une petite perturbation visuelle des habitants. Et puis vous voyez que de « je peux pas trop me balader avec un chemin technique » à « j'ai ouvert complètement le paysage et j'ai des chemins piétons qui se transfèrent » de part et d'autre, on a vraiment un gain pour le riverain. Et là, il y a, mine de rien, 15 000 m3 de plus d'expansion de crue en cas de problème, s'il y a besoin. Et puis, on continue. Il y a des ouvrages, des bâtiments qui sont en plein milieu du fond de vallée. On le voit, la rivière, elle est complètement linéaire à côté de la voirie. Bon, ben, nous, on vient la remettre au milieu. Au bout de 3 mois de travaux, on a, après, sur ces terrains-là, maintenant, plus que 4 000 d'expansion de crue, où la rivière va pouvoir s'épandre ici plutôt que s'accélérer et s'épandre sur la route un peu plus loin. Une rivière classique comme on a l'habitude de les voir, hein, un beau canal rectangulaire et rectiligne. Pas, donc ça, pas bien. Ça, bien. Voilà, très bien. On a suivi. Donc ça, c'est exactement la même zone 4 mois plus tard. Alors là, c'est pas encore végétalisé. Vous voyez que là, à la fin de travaux, les machines travaillent encore pour évacuer les remblais. Donc le avant du dessus, pareil. Là, on est au niveau du château de Victor Hugo. Château de son éditeur Louis Bertin, sur lequel Victor Hugo venait se promener, sauf qu'il y a une voie ferrée et on a linéarisé la rivière. Donc ça, c'est avant et ça, c'est après. Voilà, donc on vient enlever ces remblais de voie SNCF, on redonne de la place à la rivière et de l'expansion, et même on rétablit un paysage que même Victor Hugo, c'est lui qui a pu faire la... Heureusement, il a fait un petit poème sur la Bièvre, vous direz le lire. Ben, c'est parce qu'il avait une vue comme ça et absolument pas une vue comme ça. Hein, on est bien d'accord. Et après, on arrive aussi à intervenir en milieu très urbain. Là, on est en plein milieu de Massy, sur une ville de 50 000 habitants autour des immeubles. Donc pareil, un bassin plan d'eau permanent. Donc là, le maire est d'accord. Il dit oui, bon, bah, y avait un jet d'eau dans mon bassin pour la décoration. Maintenant, on a fait ça. Voilà. Donc du volume, des espaces verts pour les riverains et un petit cheminement piéton qu'on ne peut pas prendre tous les jours de pluie forte. Bon, bah, vous faites le tour, mais néanmoins, les gens apprécient le territoire et voient des espèces apparaître. Vous avez l'habitude maintenant, hein ? Pas bien ? Bien, voilà. Et donc, on a maintenant, à la place de ce linéaire-là, bah ça. Voilà. Une rivière complètement méandriforme qui s'est réinstallée. Ça, c'est les travaux qui se sont terminés la semaine dernière. La rivière très linéaire, hein, comme elle avait été mise pour les cultures et derrière. Nous, on est en train de créer le nouveau lit. Il y a encore l'ancien cours d'eau très linéaire. Et ça, c'est une photo prise il y a 2-3 semaines, pas plus, où la rivière a repris son cours. On a donné de la place. Les riverains peuvent se promener. Et pour l'acceptation des riverains, en fait, ce qu'on a été faire aussi, parce qu'à chaque fois, on essaye de communiquer pour montrer l'intérêt de la promenade, de la balade et autres. Bon, bah, ça, c'était la photo avant, hein, une rivière très linéaire entre deux haies de saule plantées là dans les années 70, 80. Et ça, c'est la seule photo que je n'ai pas prise de toute la séquence. Et on a mis une petite participation des riverains, un peu comme le Snap Coast où vous allez prendre le recul du trait de côte et il y a une étude qui est faite. On a mis des panneaux comme ça où c'est les riverains qui viennent me prendre la photo de la phase travaux, de après les travaux. Et là, j'ai un suivi régulier des riverains où ils me disent « Ah bah regardez la tête qu'elle a aujourd'hui. Ah bah j'ai pris cette photo, est-ce qu'elle vous plaît ?» Et les riverains viennent me faire mon avant-après sans que j'aie à le faire. Et la semaine dernière, les riverains m'ont même mis une photo de eux, comme ça, en selfie, face à la rivière, en disant, bon, bah voilà, on vous fera une évolution. Donc j'espère voir le petit grandir sur les prochaines photos que j'aurai sur la vallée de la Bièvre. Donc voilà, vous montrez vraiment les mètres cubes, les promenades, les balades et le paysage qui est complètement changé, mais pour un bien. Voilà.
Merci, monsieur le cardinal. Bon, c'est vrai qu'on voit avec ça, c'est pas surprenant de dire qu'il faut du courage quand même pour se lancer dans de tels chantiers, surtout quand ça change un paysage, ça change les habitudes. La balade, elle est un peu différente quand on avait l'habitude de marcher en ligne droite et que derrière, on fait toutes des sinuosides pour atteindre le bout de la rivière. Bon, ça prend un peu plus de temps. Mais il faut aussi du courage parfois pour, disons, ne rien faire. Alors, ne rien faire, ça peut faire peur, mais disons que c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les travaux. C'est une toute autre démarche ici qu'on va voir, où on va se placer plutôt dans la restauration passive. Alors, ça se place sur le site de Sugiton, dans le parc national des Calanques. Et donc, Madame Berthaud, directrice du parc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de limiter l'accès au site et qu'est-ce que ça a produit comme résultat pour la biodiversité, mais aussi pour les visiteurs ?
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous transporte au parc national des Calanques, donc, qui se trouve sur trois communes, les communes de Marseille, de Cassis et La Ciotat. Et donc, je vais vous évoquer, je crois qu'on l'évoquait tout à l'heure, les parcs nationaux, mais les espaces naturels de façon générale sont des lieux aussi, des lieux où on peut se ressourcer, et donc tout particulièrement sur cette calanque de Sugiton. Et pour autant, quand on parle de rénovation des espaces, on a quand même bien souvent de la pression humaine. Et il est important, même si on n'agit pas forcément avec du génie écologique, mais il est important aussi de comprendre cette pression et de voir comment on peut y trouver des solutions. Alors la principale pression qu'on a sur le site du parc national des Calanques, c'est une pression humaine. On a 3 millions de visiteurs et je crois qu'avec le Covid, on a de plus en plus cherché aller dans ces espaces naturels. Et vous, en tant qu'élu, vous avez peut-être aussi des lieux que vous valorisez et qui se survalorisent parfois, et notamment par le biais des réseaux sociaux. Alors les impacts, bon, vous les voyez, hein, c'est que c'est une calanque, et on le verra, on l'a limité à 400 personnes, mais si on regardait la taille pour sa serviette, on serait plutôt à 200. Et on constatait certains étés plus de 3000 personnes. Donc on peut dire que là, pour le coup, l'effet de ressourcement, il était quand même assez limité. Et l'impact que vous pouvez voir ici sur cette photo, c'est qu'on a un impact très très clair sur la biodiversité avec ce qui fait ces paysages magnifiques et notamment ces pins qui descendent dans ces calanques. On avait des préjudices qui allaient être irrémédiables pour la nature. Et donc on a agi avec la mise en place d'une action de restauration, mais qui est aussi une action qu'on a appelée « réserver, c'est préserver ». Et qui a mis en place ce qu'on appelle un contingentement, donc qui se fait deux week-ends du mois de juin, tout l'été, et deux week-ends au mois de septembre, et qui met une sorte de limitation, puisque cette calanque est limitée à 400 personnes par jour, avec un système de contrôle pour la surveillance et pour l'accès à cette calanque. Donc je crois que, et je pense que c'est important, vous l'avez évoqué, cette mesure, elle est aujourd'hui plébiscitée. On en est à la quatrième année. Elle est plébiscitée parce que d'abord, ça a été bien explicité. Je crois qu'aujourd'hui, les concitoyens sont quand même plutôt convaincus qu'il faut préserver ces espaces-là. Et ils sont convaincus de cette action qui, finalement, peut être aussi une action citoyenne, de se dire « je vais limiter mon impact sur cet espace si je veux qu'il garde... » qui garde aussi toute cette beauté et toute cette préservation de la nature. Et en fait, je voulais vous montrer l'impact. L'impact, ben, c'est un retour de la nature. Alors au bout de 4 ans, il faut être très clair, hein, ça prendra son temps, ça doit être une action qu'il faut inscrire dans le temps. On voit aussi des oiseaux qui reviennent, puisque le parc des Calanques est connu pour accueillir des oiseaux nicheurs qui sont des espèces protégées. Et puis finalement, pour l'humain, parce que je crois que c'est aussi ça, vous, en tant qu'élu, vous avez besoin de convaincre. On voit bien qu'il faut que ce soit une expérience assez fantastique qui puisse être faite. Et c'est une expérience pour les 400 personnes qui y vont. Et je crois dire aujourd'hui que c'est compris. C'est plébiscité et si vous souhaitez trouver une place, vous pouvez trouver une place. Je voulais rajouter que sur cette restauration, on n'a pas actionné de génie écologique, Par contre, il faut être assez clair, deux choses aujourd'hui sur lesquelles on est impacté. Le changement climatique, qui fait que globalement, et ça peut être le cas sur les rivières aussi, avec des inondations de plus en plus présentes, mais globalement, aujourd'hui, cette question de la fréquentation, le week-end du 11 novembre, on avait autant de gens qu'au mois de juillet et du mois d'août. Donc ça veut dire que c'est aussi certainement une mesure qu'il va falloir faire évoluer pour que on n'ait pas les images que j'ai pu vous montrer au début, en plein mois de novembre. Et le deuxième sujet, c'est que c'est pas parce qu'on laisse faire la nature que ça ne nécessite pas des moyens. Ça nécessite des moyens de fonctionnement, ça nécessite de la surveillance. Donc ça nécessite une implication forte de la structure gestionnaire, des collectivités. Donc c'est vraiment une action, c'est pas du laisser-faire, libre évolution, où il n'y aurait aucune intervention et tout le monde respecterait l'environnement et respecterait le cadre donné. C'est vraiment une action forte, une action politique qu'il faut soutenir, mais qu'il faut aussi accompagner dans le temps.
Merci Madame Berthaud. C'est vrai qu'on voit que même si on n'engage pas des travaux en sortant la tractopelle, on a des effets qui sont tout à fait formidables, qu'on observe sur le terrain. Ici, du coup, ça pouvait susciter quelques doutes probablement au départ, mais quand on observe des personnes qui, soit peuvent accéder peut-être un peu moins souvent à un espace naturel, d'ailleurs, se disent bah, « en fait, c'est vrai que quand j'ai le droit, quand je peux y accéder, l'expérience est quand même beaucoup plus plaisante. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas quand même un résultat très très positif ?» Alors, je regarde l'heure, mais je crois qu'on est à 4 minutes de la fin, donc... Peut-être qu'on peut prendre une question, peut-être, avant la conclusion. Alors, on va avoir deux questions, ça va être compliqué. Bon, on va essayer de prendre les deux très, très rapidement, puis ensuite, Madame Lamergue, je vais laisser peut-être conclure.
Moi, j'ai une question pour le syndicat de Rivière. Est-ce que c'est la taxe GEMAPI qui permet de réaliser l'entente des travaux ? Exclusivement la taxe GEMAPI ou
non,
autre chose ?
Non. On a les plans des agences de l'eau, le 12e programme. L'agence de l'eau vient nous financer à 80% sur les actions comme celles que vous avez vues. Donc 80%, je le dis à chaque fois, hein, c'est les soldes à 80% vous achetez, les soldes à 60% vous achetez. Donc ça nous permet de démultiplier ces actions-là. C'est sûr qu'on en ferait trois fois moins si on n'avait pas l'aide des agences de l'eau. Et là, le 12e programme, on était sur le 11e avant, on démarre le 12e, on signe le contrat sur 5 ans avec l'agence et les agences viennent nous aider pour faire ces travaux-là. Donc le problème, c'est plus le foncier pour nous, mais ce n'est pas le financier. Parce que les agences et l'État sont là pour nous aider.
Une dernière question.
Oui, je voulais savoir pour les Calanques, quels moyens humains vous avez pu mobiliser pour ce type de dynamique ? J'imagine que c'était compliqué aussi de mettre en place pour la réservation de l'accès. Merci.
Donc, pour cette dynamique, il y a plusieurs types de moyens. Donc, des moyens internes du parc, donc avec nos gardes-moniteurs qui sont présents et qui ont aussi un pouvoir de police. Je crois qu'il faut être très clair, hein, la police de l'environnement, elle est importante puisque certains ne respectent pas forcément. Et on a externalisé à une société privée qui contrôle les QR codes. Et après, je crois qu'il ne faut pas oublier que tout cet accompagnement-là, il se fait avec pédagogie, diplomatie. Et donc ça nécessite du temps, des moyens aussi de sensibilisation, d'aller au contact. Et pour le coup, les mêmes réseaux sociaux qui ont fait qu'il y a beaucoup de monde, on les a utilisés aussi pour avoir ce type de communication. Donc ça, c'est des moyens... Alors, ce n'est pas du génie écologique, ce n'est pas financé à 80% comme on l'a vu, mais on a obtenu d'ailleurs sur cette opération-là du Fonds vert qui nous a accompagnés pour tenir cette expérimentation qui est aujourd'hui depuis 4 ans.
Merci. Voilà, il me revient de faire la conclusion. Alors, non préparé, en fait, l'idée, c'était un peu de rebondir sur quelque chose quelques points qu'on a entendus dans les interventions. D'abord, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, c'est qu'il faut des élus courageux. Derrière tous les projets qu'on voit fonctionner, nous, à la Direction de l'eau et de la biodiversité, on a souvent un binôme élu-service technique qui fonctionne, avec des services qui s'engagent, mais aussi un élu qui porte, qui convainc et parfois ses collègues élus, mais aussi l'ensemble de la population qui, parfois, est réticente au changement par crainte de l'avenir, aussi parce que pendant longtemps, la solution qu'on leur a proposée de faciliter, c'était la solution rectiligne et bétonnée. Et nous, on va revenir mettre un peu de désordre naturel dans tout ça, mais pour retrouver de la fonctionnalité des cours d'eau, et ça, c'est important.
Donc je le dis parce que c'est faire preuve de courage, mais bien sûr de responsabilité vis-à-vis du vivant qui est notre commun. La deuxième chose que j'ai entendue aussi, c'est qu'on a bien vu dans les exemples, et ça je voudrais que vous repartiez avec ça en tête, qu'on a à la fois des espaces remarquables en termes de paysage, mais de biodiversité, sur lequel on a des moyens qui sont mis par l'État, mais aussi par des collectivités pour gérer ces espaces, des moyens humains, des moyens financiers, pour faire en sorte, y compris par de la réglementation parfois, de les protéger dans le long terme. Donc ça, on va continuer. On va évidemment, pour tout élu qui souhaite aller plus loin pour classer dans des zones de protection simples ou fortes des espaces chez eux, être là pour les accompagner, y compris par des outils financiers. Je pense notamment à la dotation aménité rurale qui est une dotation qui, sur le budget général, qui vient alimenter des collectivités qui ont des espaces protégés. Et donc ça, on va continuer à travailler avec vous. Mais en fait, au-delà des aires protégées, c'est la question, enfin, il n'y a pas que des espaces remarquables, on a de la biodiversité ordinaire partout, et celle-là elle est essentielle, d'abord parce que même si visuellement elle n'est pas tout aussi remarquable, pour le fonctionnement global du vivant, elle est remarquable. Et donc on va continuer à la protéger avec vous, y compris en mettant en espaces à la fois pour chacune des espèces concernées, mais aussi en mettant des liens, des trames vertes et bleues pour celles qui connaissent et ceux qui connaissent, vers les aires protégées existantes, ce qui est en fait la meilleure assurance vie du fait du dérèglement climatique. Et on l'a abordé, l'enjeu de demain, c'est là où vous avez de la biodiversité ordinaire aujourd'hui, vous aurez peut-être de la biodiversité remarquable parce que les espèces vont migrer, parce que notre climat est en train de changer et que dans 50 ans, la France ne ressemblera plus à ce qu'elle est aujourd'hui et qu'on va s'adapter collectivement. Et pour ça, il faut que vous soyez accueillants pour le vivant de demain. Et puis pour finir, peut-être un point pour vous dire que vous êtes aussi très accompagné financièrement. Je l'ai dit sur la dotation qui est un tout petit morceau, mais sur toute la logique projet. Vous avez les agences de l'eau, ça a été dit, sur les 80% et toute une palette d'outils des agences pour aider sur la partie humide. Et puis le fonds vert, notamment sur la partie sèche, mais aussi humide, pour accompagner les communes, les intercos, toutes les collectivités qui ont envie d'agir, en commençant d'abord, peut-être, pour ceux qui partent de loin, mais peut-être dans la salle, on a des convaincus, par le diagnostic de la biodiversité, l'ABC de la biodiversité, qui est aujourd'hui opéré par l'OFB et qui est un outil de l'État pour aider à mieux connaître son territoire autour de chez lui. Voilà ce que je voulais dire en termes de conclusion et vraiment vous remercier pour la qualité des exposés.
Et merci beaucoup à toutes et à tous pour ces précieuses interventions. Et puis bon, je pense que ce qui est hyper important de souligner avec tout ça, c'est que la nature, quand on travaille avec elle, c'est évidemment pour la biodiversité, mais c'est aussi et surtout pour l'humain. Voilà, donc c'est vraiment ces deux qui doivent être mis sur un pied d'égalité quand on travaille sur le plan écologique. Merci en tout cas de nous avoir rejoints pour cette session. On arrive à son terme. Et puis bonne journée à tout le monde et bonne continuation sur le salon.